l'entreprise peut absolument choisir les objectifs qu'elle veut traiter et quelque part les enjeux sociaux et environnementaux de son activité auxquels elle veut répondre. La contrepartie, c'est que l'entreprise doit d'une certaine manière rendre compte de la façon dont elle exerce sa mission, donc dont elle respecte ses engagements.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Machine à Sens, un podcast 100% dédié aux entreprises à mission. Au micro, je reçois des dirigeants d'entreprise, des managers de mission qui nous expliquent leur motivation, leur cheminement vers l'entreprise à mission et les actions qu'ils ont pu conduire depuis. Mais également des experts et des auteurs qui viennent éclairer un sujet sociétal. Je m'appelle Vivien Pertuso et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Alain Schnapper. Alain est un peu multicasquette, mais aujourd'hui c'est en tant que vice-président de la communauté des entreprises à mission qu'il intervient. Je souhaitais vraiment échanger avec lui sur la dernière publication de la communauté consacrée aux organismes tiers indépendants, les OTI. Si vous êtes déjà société à mission, vous avez probablement eu vent de l'évaluation à venir, mais sans forcément savoir comment ça allait se passer ou comment bien la préparer. Pour les autres, l'OTI a pour rôle de vérifier l'adéquation entre vos intentions et vos actions en venant auditer que vous faites tout ce qui est possible pour respecter vos engagements. Dans cet épisode, Alain répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser en partant de ce guide. Cette publication cherche autant à proposer une méthodologie d'évaluation aux OTI qu'à informer les entreprises sur ce qui les attend. C'est parfois un peu technique, mais après tout, on parle d'un audit, hein. Surtout, c'est une étape incontournable pour toutes les entreprises à mission. Alors, comment choisir son OTI? Comment se préparer à cette vérification? Faut-il la craindre? Y a-t-il quelques bons tuyaux pour la réussir? Combien de temps est-ce qu'elle va durer? Combien ça coûte? Autant de questions que l'on aborde dans cet épisode et bien d'autres. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Alain.
Bonjour Vivien.
Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour ce nouvel épisode de La Machine à Sens, un podcast 100% dédié aux entreprises à mission. Et là, aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le cœur de la mécanique, parce qu'on va parler des OTI, des évaluations, des audits, tout ça. Donc là, on est vraiment dans le dur du dur. Mais avant de rentrer là-dedans, je vais quand même te présenter. Et je te laisserai la possibilité d'ajouter des éléments ou de corriger des éléments, bien évidemment. Alain Schnapper, on pourrait te présenter comme un homme idoine. Tu es issu d'une famille d'universitaires que je qualifierais de prestigieux, mais tu as pris la voie de l'entreprise. Choix pas forcément aisé, j'imagine, mais voie que tu as tracé toute ta carrière. Tu as travaillé dans plusieurs entreprises industrielles et ton parcours a notamment été marqué par 15 ans au sein du groupe Ponoma, avec plusieurs postes de direction. Puis le monde académique t'a rattrapé. Tes liens avec Armand Attuel ont notamment, je pense, joué un rôle clé puisque tu t'es plongé dans l'entreprise à mission au sein de Mines Paris Tech, fraîchement rebaptisée d'ailleurs Mines Paris PSL. Depuis, tu as approfondi ton engagement sur ces sujets, notamment en fondant le cabinet de conseil gouvernance responsable, en publiant un livre que j'ai recensé sur la machine à sens « Puissante et fragile, l'entreprise en démocratie » que tu as coécrit avec ta mère. Et tu es également très impliqué au sein de la communauté des entreprises à mission, puisque tu en es le vice-président, également le président du comité de mission. Mais surtout, tu es un membre très actif dans les rapports que la communauté peut publier, dont celui qui nous anime aujourd'hui et qui fait que nous sommes réunis. Est-ce que j'ai oublié des éléments ?
Non, j'ai beau chercher, je pense que tu as été tout très complet, donc je plaide coupable.
donc effectivement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler d'un des derniers rapports que la communauté a sorti. Donc juste pour préciser, la communauté organise des groupes de travail thématiques pour produire des rapports qui ont vocation à alimenter à la fois les entreprises qui souhaitent devenir société à mission, ainsi que celles qui le sont déjà, et d'améliorer un peu les pratiques, de créer, alors on ne va pas appeler ça une doctrine, des doctrines, mais au moins des bonnes habitudes, des bonnes pratiques sur les différents sujets. Donc il y en a eu plusieurs, hein. Il y en a eu un sur le comité de mission, il y en a un sur l'impact sur le management, comment réussir ses 100 premiers jours. Et donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le dernier sorti, qui s'intitule « Vers une vérification OTI contribuant au progrès de la société à mission, guide méthodologique de vérification des sociétés à mission par les organismes tiers indépendants ». Long titre, mais qui le vaut. Et c'est vrai que c'est un sujet qui, je vais dire, crispe un petit peu les entreprises parce que c'est bien beau hein, de passer société à mission et d'avoir une raison d'être, des objectifs statutaires, etc. Mais derrière, il y a une évaluation. Et donc, justement, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le pourquoi de cette évaluation et à quoi ça ressemble, quoi ?
Alors oui, l'évaluation, elle est un élément absolument constitutif du modèle même de la société à mission. Et la caractéristique de la société à mission, comme le savent certainement les auditeurs, c'est donc à la fois la liberté qui est laissée à l'entreprise de définir sa mission et de l'inscrire dans ses statuts, donc mission constituée de la raison d'être et des objectifs qui sont inscrits dans les statuts, mais la contrepartie de cette liberté, puisque l'entreprise peut absolument choisir les objectifs qu'elle veut traiter et quelque part les enjeux sociaux et environnementaux de son activité auxquels elle veut répondre. La contrepartie, c'est que l'entreprise doit d'une certaine manière rendre compte de la façon dont elle exerce sa mission, donc dont elle respecte ses engagements. Et c'est ce qui fait la force du dispositif, mais c'est aussi ce qui fait toute la légitimité et la crédibilité de l'entreprise dans sa démarche de société à mission.
Et donc cette partie d'évaluation, on a l'impression que pendant longtemps, c'était l'objet oublié. On a pas mal travaillé sur comment définir une raison d'être, des objectifs, mais on a un peu oublié que derrière, il y avait cette évaluation. Et donc peut-être que, est-ce que le rapport intervient maintenant, parce que finalement, les premières évaluations interviennent maintenant, ou...
Alors, oui et non, c'est vrai, ça en l'est tout à fait, parce que derrière l'évaluation, en fait, l'évaluation, ça recouvre deux choses. Ça recouvre le travail du comité de mission et le travail de vérification par l'organisme tiers indépendant, on va dire OTI, pendant la suite de notre discussion. Et d'ailleurs, dans le cadre de la communauté, on a travaillé sur la notion d'évaluation dès le début. Et ensuite, on a travaillé sur le comité de mission. Donc, en fait, on ne peut pas dire que l'évaluation, elle a été laissée de côté, parce que le comité de mission, il a été évidemment tout de suite vu comme un élément essentiel. En revanche, la vérification OTI, qui, j'allais dire par nature, non, mais comme la loi le définit, n'intervient qu'au bout de 18 ou 24 mois, à l'échelle des entreprises qui est déjà très contente d'être arrivée jusqu'au stade de déposer des statuts pour société à mission, l'OTI, ça paraissait un peu loin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, mais donc il y a un an maintenant, un peu plus d'un an maintenant, donc mai 2021, j'avais en fait anticipé cette idée que les OTI allaient arriver, les vérifications allaient arriver, et c'est la raison pour laquelle au sein de la communauté on avait lancé ce groupe de travail qui au départ était juste un retour d'expérience des entreprises qui avaient déjà commencé à faire des premiers audits à blanc. Et on s'était dit, bah, il y en a qui ont commencé, on va vite essayer d'en retirer quelques enseignements pour quelque part diffuser des bonnes pratiques. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu, on en a fait un guide méthodologique. Mais donc, la raison pour laquelle c'est pas venu plus tôt, c'est que dans le fond, 18 ou 24 mois, ça paraissait très loin à tout le monde.
Et puis on reviendra justement sur cette notion d'audit à blanc, parce que c'est vrai qu'on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement. C'est beaucoup plus important que ce qu'on pouvait
imaginer au
imaginer au
départ,
départ.
Absolument.
Alors peut-être. Pour commencer directement, c'est une question que moi on m'a pas mal posée, j'imagine à toi aussi. Comment choisir son OTI?
Ah. Alors, d'abord, pour avoir le droit de faire une vérification de société à mission, il faut être donc un OTI accrédité par le COFRAC. Donc le COFRAC, c'est en gros le descendant du service des mines, on le connaissait sous ce nom-là à une époque. Et donc c'est un organisme qui vérifie que des acteurs qui veulent devenir des OTI respectent des façons de faire, des procédés, un management de la qualité conforme à une norme d'accréditation. Dans la pratique, les organismes qui veulent devenir OTI commencent par déposer un dossier. Le COFRAC le juge recevable. Et à part ou pas, une fois que le dossier est jugé recevable, l'OTI a le droit de faire des vérifications et qui sont parfaitement valables. Alors, pour autant, l'OTI n'est pas encore accrédité, parce qu'en fait, le COFRAC va accréditer les OTI sur la base de vérifications réellement effectuées. Donc, sinon, le chien se mordait la queue, donc il faut bien pouvoir commencer. Donc voilà, aujourd'hui d'ailleurs, la quasi-totalité des OTI qui fonctionnent, enfin, les OTI qui fonctionnent ont eu la recevabilité, bien sûr. Et la quasi-totalité d'entre eux n'ont pas encore eu l'accréditation, parce qu'il faut un certain temps pour le faire et il faut voilà. Ensuite, dans la pratique, la plupart des OTI pour la société à mission sont déjà des OTI pour la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière, qui a disposé déjà d'un système un peu équivalent. Et c'est beaucoup plus facile de devenir OTI quand on était déjà OTI pour la DPEF qu'en partant de zéro.
Après, c'est un point important aussi, parce que beaucoup se posent la question, mais qui sont les OTI, etc. Donc la liste est disponible sur le site de la communauté.
Alors la liste des OTI ayant eu la recevabilité est disponible sur le site de la communauté, et même pour être plus précis, il est sur le site de l'Observatoire.
Oui, tout à fait.
Ajoutons que à 80 ou 90%, les acteurs qui sont des OTI sont plutôt issus du monde du chiffre, comme on dit, donc comptable, expert comptable ou commissaire aux comptes. C'est une très très grosse majorité, mais ça n'est pas la totalité.
Oui, parce qu'il y a aussi des cabinets de conseil RSE aussi.
Exactement, il y a des cabinets de conseil RSE qui ont développé une activité de vérification OTI, il y en a plusieurs. Il y a des avocats et il y a aussi des gens qui viennent plutôt du monde du contrôle. Donc plutôt de la culture de la science qualité.
Après, il y a cette question évidemment de l'audit arrive, donc une entreprise à mission, elle est contente d'être passée effectivement, d'avoir inscrit dans ses statuts une raison d'être, des objectifs, d'avoir constitué son comité de mission, etc. 6-12 mois après avoir fait tout ça, commence à se poser la question de l'audit qui arrive. Est-ce que ce n'est pas déjà un peu trop tard ?
Alors, rappelons hein, les termes de la loi. La loi, c'est le premier audit doit être fait 18 ou 24 mois après le dépôt des statuts.
Donc ça, c'est en fonction de la taille de l'entreprise.
En fonction de la taille de l'entreprise, suivant qu'elle fait plus ou moins de 50 salariés. Donc c'est l'impératif. Pour qu'on respecte ça correctement, il faut certainement de toute façon anticiper le fait que l'OTI aura besoin d'un peu de temps. Donc c'est clair que... Pour les entreprises de plus de 50 salariés, ils commencent à y réfléchir 6 mois avant l'échéance, ça paraît bien, donc 12 mois, ça paraît indispensable. En fait, l'expérience commence à nous montrer qu'il est vraiment recommandé, pour la première vérification en tout cas, de commencer par procéder par un audit à blanc qui permet de comprendre, pour l'entreprise, de comprendre, un, ce qui va lui arriver, entre guillemets, comment l'OTI va fonctionner, qu'est-ce qu'il attend, et de se préparer et de s'adapter à ce que va demander l'OTI. J'ajoute que c'est d'autant plus important que, soyons clairs, on ne devient pas société à mission pour passer un audit par un OTI. Hein. Donc il ne faut pas se tromper. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, la méthodologie qu'on a développée dans le cadre de la communauté conduit au fait que ce que demande un OTI est très vertueux pour la mise en place et le fonctionnement d'une société à mission. Et donc, en recommandant de faire un audit à blanc, je recommande en même temps, en réalité, de confronter son organisation à quelqu'un qui va vous poser de très bonnes questions sur la manière de s'organiser pour être efficace dans la vie en société à mission ou pour piloter la transformation induite par la société à mission. Donc ça, c'est un point qui me paraît important, j'en profite pour le dire. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont devenues sociétés à mission et qui l'ont fait toutes seules, qui éventuellement ont commis l'erreur de ne pas rentrer dans la communauté et donc de ne pas être challengées en rentrant dans la communauté, bref. Et donc ces entreprises, parfois l'OTI va être le premier acteur extérieur
externe, tout à fait,
qui va venir regarder ce qui a été fait. Porter un regard dessus, éventuellement même le plus souvent riche des expériences qu'il aurait pu avoir ailleurs, et éventuellement d'ailleurs il est lui-même société à mission. Bref, il y a un vrai intérêt, enfin ça peut être très riche, le premier regard de l'OTI, et la méthodologie, enfin c'était l'objectif de notre groupe de travail au sein de la communauté et de cette méthodologie, c'est que justement cette vérification, elle soit utile pour la société à mission.
Alors pour revenir à cette partie d'audit à blanc, donc tu disais ça peut être effectivement utile, regard externe, etc. Tu parlais aussi de la manière dont vit la mission. Ce qui est très intéressant dans le rapport, c'est cette idée du modèle de mission avec les différents étages. Est-ce que tu pourrais revenir dessus? Parce que je trouve que c'est très, très intéressant pour une entreprise qui souhaite passer société à mission ou même pour une entreprise qui l'est déjà, de voir un petit peu comment elle organise ces différentes actions.
Alors oui, l'idée ou le concept de modèle de la mission, tu peux en voir une première esquisse d'ailleurs dans les premiers rapports de la communauté, et puis ensuite il a progressé. En fait, il c'est un modèle de représentation de l'action finalement, par définition un modèle donc simplifié, etc., mais qui vise à mettre en avant, à mettre en évidence la façon dont la mission, dont je rappelle, raison d'être, objectif statutaire, qui peut légitimement être vue comme assez conceptuelle, un peu abstraite, puisque par définition, c'est des mots qu'on inscrit sur un statut. Donc la manière dont cette mission est, d'une certaine manière, mise en œuvre au sein de l'entreprise. Et donc, on a imaginé donc, un schéma qui vient compléter donc, raison d'être, objectif statutaire, par des objectifs opérationnels qui ne sont pas statutaires et qui donc à ce titre sont susceptibles d'évoluer, d'être mis en cause, de bouger. Donc ça donne une forme de flexibilité aussi à la réflexion. Je précise en passant que ils ne sont pas l'écriture de ces objectifs opérationnels n'est pas obligatoire, mais leur existence est néanmoins mentionnée dans l'arrêté qui précise les conditions de vérification d'un OTI, en disant bien que s'ils existent, alors il faut les utiliser pour décider si les objectifs ont été atteints ou pas. Donc le choix des objectifs opérationnels qu'on retient dans le modèle de la mission, ce choix va avoir des conséquences sur la manière dont la vérification va se dérouler. Donc je reprends, raison d'être, objectif statutaire, objectif opérationnel, et puis pour atteindre ces objectifs opérationnels, en face on a des actions, des plans d'action, des choix stratégiques, des ambitions, des renoncements, et un certain nombre d'indicateurs, ou disons, je préfère dire un certain nombre de mesures qui permettent de mesurer si les objectifs opérationnels sont atteints ou pas atteints. Il n'est pas obligatoire que ces indicateurs soient quantitatifs. Ça peut être des indicateurs de moyens, ça peut être des indicateurs de résultats qualitatifs ou des indicateurs de résultats quantitatifs, mais c'est cet ensemble qu'on appelle le modèle de la mission et dont on va voir que ça peut être un outil extrêmement intéressant pour plein d'acteurs, d'abord pour l'entreprise et ses dirigeants, évidemment, pour le comité de mission et enfin pour l'OTI dans le cadre de sa vérification. Donc oui, le modèle de mission est une fois encore un schéma, c'est pas plus qu'un schéma, mais qui donne à voir la façon dont la mission devient concrète et opérationnelle dans l'entreprise.
Ouais, ce que j'aime bien dans ce schéma, c'est alors effectivement, en soi c'est un schéma et chacun se l'approprie un petit peu à sa manière, bien évidemment, il faut l'adapter à l'entreprise, mais c'est qu'il y a ces trois niveaux en fait, avec le premier niveau, donc raison d'être, objectif, qui sont la mesure d'impact, donc effectivement, après chacun définit impact comme il le souhaite, évidemment.
Les effets de la mission.
Voilà. avec le deuxième niveau, les mesures de résultat, donc là on est vraiment au niveau des objectifs opérationnels. Et le troisième niveau, donc c'est ce que tu précisais avec les actions, les mesures, les indicateurs, même si tu n'aimes pas forcément ce terme-là, on est vraiment dans les actions, les preuves, les mesures de moyens. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant parce que ce n'est pas forcément comme ça que la mission est conceptualisée en fait, par beaucoup d'entreprises, qu'elles se fassent accompagner ou pas d'ailleurs. Hein. Donc je trouve que c'est assez, assez vertueux. Après, si on revient justement à ces objectifs opérationnels, tu disais qu'ils ne sont pas obligatoires. Ils sont quand même fortement conseillés.
Fortement conseillés.
ça peut être intéressant de se dire, en fait, c'est utile pour l'entreprise, c'est utile pour l'OTI pour faire sa vérification, c'est utile pour le comité de mission aussi pour superviser le déploiement de la mission. Mais comment est-ce qu'on arrive à trouver des objectifs opérationnels qui puissent convenir à ces différents acteurs ?
Alors, il n'y a pas de méthode universelle. Je dirais que des objectifs opérationnels qui sont pertinents par rapport aux objectifs statutaires, je dirais que c'est des objectifs qui permettent dont l'atteinte permettrait de démontrer de manière convaincante que l'objectif statutaire est atteint, et inversement, dont, ensemble, le périmètre couvert est significatif par rapport à l'objectif statutaire. Donc il faut un peu se poser la question de si j'atteins cet objectif opérationnel, est-ce que je suis légitime à dire que oui, mon objectif statutaire il est atteint. Autrement dit, est-ce que mon objectif opérationnel il contribue vraiment à l'atteinte de l'objectif statutaire? Et inversement, est-ce que je peux me dire qu'avec l'ensemble des objectifs opérationnels que j'ai écrits, je peux dire que le périmètre de mon objectif statutaire est couvert? Pour donner un exemple un peu bébête, mais si j'ai un objectif statutaire du style réduction de mon empreinte carbone et que j'ai un objectif opérationnel qui traite du scope 1 et que nulle part je traite du scope 2 et du scope 3,
c'est un peu limite,
ça fait un peu désordre. Voilà. Bon, c'est un exemple, c'est juste pour illustrer cette idée de... Certes, dans un sens, ça marche. Certes, l'objectif sur le scope 1, il contribue. Mais à l'inverse, est-ce que j'ai couvert mon objectif statutaire avec cet objectif opérationnel ? Manifestement, la réponse est non. Voilà. C'est un peu dans ces... Donc, on est dans des schémas, je dirais, des articulations logiques. Il faut vraiment se poser cette question de complémentarité, d'exhaustivité, de significativité, sans non plus, et j'anticipe un peu sur la suite, sans non plus tomber dans l'excès inverse, qui consisterait à vouloir soutenir un objectif statutaire par 25 objectifs opérationnels. Ça serait absurde. Et notamment parce que quand on va parler des résultats, l'OTI, lui, il va, si vous écrivez 25 objectifs opérationnels, il va vous demander des résultats sur les 25, et s'il y en a un seul qui n'est pas atteint, il va vous dire que vous n'avez pas atteint votre objectif. Donc il ne faut pas non plus tomber dans un syndrome de premier de classe qui voudrait avoir que des bonnes notes.
On va y revenir effectivement, parce que c'est assez essentiel en fait, et ça c'est peut-être quelque chose qui n'était pas forcément bien anticipé au départ, à la fois d'avoir beaucoup d'objectifs statutaires, ça signifie qu'on se met quand même en risque, entre guillemets, par rapport à l'évaluation.
En tension,
quand même assez forte. Et pareil pour les objectifs opérationnels derrière. Tu parlais de cet audit à blanc, et finalement on peut parler aussi de l'audit derrière le vrai. Et tu disais, ça peut apporter beaucoup d'éclairage aux entreprises, surtout celles qui ne se sont pas faites accompagner, et donc qui n'ont jamais véritablement exposé leur mission à des personnes externes. Est-ce que, alors selon l'expérience que tu as pu avoir, éclairage peut se transformer en petit coup de poing ?
Alors, disons que concrètement, et ce que je vais dire, ça, sur la base de l'expérience qu'on commence à avoir maintenant, j'insiste sur le fait que par définition, c'est des premières vérifications. Donc ce que je dis est vrai pour les 2-3 ans qui viennent. Quand on commencera à être dans des deuxièmes, troisièmes vérifications, évidemment, ça sera très différent de ce qu'on vit aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on vit aujourd'hui de manière assez claire, c'est que, comme par hasard, il y a beaucoup d'entreprises, je pense que c'est un bon symptôme, qui modifient leurs objectifs statutaires à la suite de la vérification OTI ou en prévision de la vérification OTI, ce qui est en soi très bien. À la limite, ça prouve que c'est vivant. Ça prouve aussi... et c'est la faute à personne, hein, puisque dans le fond on ne savait pas très bien, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas vraiment anticipé les conséquences de ce qu'elles écrivaient, quoi. Et que donc en écrivant, comme tu l'as dit, plein d'objectifs statutaires, plein d'objectifs opérationnels, elles se mettent en fait dans une situation, elles vont se faire vérifier sur l'ensemble de ces objectifs, quoi. Et ça, elles n'avaient pas forcément anticipé. Et en plus, le vérificateur OTI, lui, il va dire, tu avais visé 100, t'as fait 100 ou t'as pas fait 100 ? Non, j'ai fait 90. Bah oui, mais t'avais dit 100. Et donc 100, c'est pas 90, donc l'objectif, il n'est pas atteint. Et donc, il y a aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui font un travail formidable, qui découvrent avec un peu d'agacement ou un petit peu d'amertume, un petit peu de désagrément, que si elles avaient su, elles n'auraient peut-être pas rédigé les choses exactement de la même manière. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de situations dans lesquelles, en fait, il y a un peu cette première vérification, elle est un peu l'objet d'un ajustement. C'est aussi pour ça que l'audit à blanc est vraiment intéressant, parce qu'à la limite, ça peut permettre de faire des ajustements entre l'audit à blanc et le vrai. Et donc c'est intéressant pour cette phase-là, pour les premières vérifications, c'est intéressant de le faire.
Dans la suite de l'épisode, Alain rentre dans le détail du déroulé d'un audit, étape par étape, pour que nous comprenions bien les différentes dimensions qu'il recouvre. Maintenant, dans la mécanique de cette vérification, à quoi peut s'attendre une entreprise, ou à quoi doit s'attendre une entreprise lorsque l'OTI arrive pour faire sa vérification ?
D'abord, on peut peut-être partir de la fin. Qu'est-ce que doit à la fin faire un OTI ? Et puis on va expliquer comment il va y arriver.
Fonctionnons à rebours.
D'abord, à l'arrivée, l'OTI, il est censé donner son avis, objectif statutaire par objectif statutaire.
Ça, c'est très, très, très important.
Donc,
c'est
pour chaque objectif statutaire. Donc, si vous avez une société à mission qui a 5 objectifs statutaires, hein, je dis bien pas opérationnels, mais bien statutaires, ceux qui sont inscrits dans les statuts, l'OTI, il va donner son avis sur les 5 objectifs, séparément, enfin les uns derrière les autres. La loi dit que s'il y en a un qui est non atteint, théoriquement, si quelqu'un va devant le juge, il peut réclamer que l'entreprise perde le droit de la qualité de société mission.
Parce que rappelons que cet avis est public.
Cet avis est public, il doit être publié pendant 5 ans sur le site de l'entreprise. Donc, l'OTI doit rendre un avis sur chacun des 5 objectifs. cet avis pour chacun des quatre des cinq, pardon, pour chacun des objectifs. Il peut être soit objectif atteint, soit objectif non atteint, soit impossibilité de conclure. Et on va être cette notion d'impossibilité de conclure, elle est très intéressante parce qu'elle est très différente de cette notion qui existait déjà dans des audits classiques, les audits comptables, et elle vient de l'élément suivant qui est donc il est extrêmement important d'avoir en tête l'arrêté. Donc c'est l'arrêté dont je parle, c'est celui du 25 mai
2021.
Je ne sais jamais, c'est le 25 ou 27. Ouais. Qui précise les conditions dans lesquelles doit travailler l'OTI. C'est là où il y a notamment les objectifs opérationnels que j'évoquais tout à l'heure. Et cet arrêté dit quelque chose d'extrêmement important, c'est que pour porter un jugement sur un objectif, on doit tenir compte de quatre éléments que sont, et il n'y a pas d'ordre entre les quatre, que sont les moyens engagés par l'entreprise, les résultats obtenus, les conditions externes qui peuvent expliquer que si des résultats n'ont pas été atteints, et, disons pour le dire simplement, les conditions internes, en gros la marge des affaires, qui pourraient éventuellement expliquer que des moyens n'aient pas été mis en œuvre. Et donc, l'avis de l'OTI, pour un objectif donné, va s'appuyer sur ces quatre éléments. Donc il va regarder les résultats, atteints ou pas atteints, les moyens engagés, puis il va voir si en gros il y a des circonstances atténuantes, qui expliquent, internes ou externes, qui expliqueraient la situation. Et ça, c'est là où potentiellement ça peut aboutir à des impossibilités de conclure. C'est-à-dire qu'on peut être dans, si on est dans la situation dans laquelle l'entreprise a mis les moyens, mais n'a pas obtenu le résultat qu'elle avait cherché à atteindre à cause de circonstances externes, donc à la fois on ne peut pas dire qu'elle a atteint le résultat, il ne les a pas atteints, mais en même temps, elle avait une bonne excuse pour ne pas les avoir atteints et elle s'est donné les moyens, alors impossibilité de conclure. Et donc, la situation de l'impossibilité de conclure est quand même, de fait, assez fréquente. En tout cas, dans les premiers cas qu'on observe, c'est assez fréquent. Et puis, je reviens sur un point très précis, sur l'évaluation des résultats. Et c'est là où c'est le lien avec les objectifs opérationnels dont on parlait tout à l'heure. Si sont associés, une fois encore ce qu'on recommande, si sont associés à un objectif statutaire, des objectifs opérationnels, pour savoir si les résultats de l'objectif statutaire ont été atteints, on va regarder si les résultats des objectifs opérationnels ont été atteints. Et la règle, c'est que si vous avez trois objectifs, enfin, il suffit qu'il y ait un objectif opérationnel dont les résultats ne sont pas atteints pour dire que les résultats de l'objectif statutaire ne sont pas atteints. Et c'est là où tout à l'heure je vous disais, ne soyez pas plus royaliste que le roi, vous n'êtes pas obligé de vous mettre 25 objectifs opérationnels pour un objectif statutaire, parce que sur le plan probabiliste, si on en avait 25, la probabilité qu'il y en ait au moins un qui ne soit pas atteint augmente significativement. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut minimiser le nombre d'objectifs opérationnels, je dis qu'il faut mettre des objectifs opérationnels qui soient pertinents, qui soient judicieux, mais pas plus.
Oui, parce que c'est avant de d'enchaîner là-dessus, juste un point qui est important, parce que m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, ce n'est pas l'OTI qui peut révoquer la du qualité de société à mission. Hein,
non, important. Absolument. Hein, absolument. Quand si un OTI donne un avis négatif sur un objectif, à ce stade, il ne se passe rien, sauf si une partie intéressée va devant le juge du tribunal de commerce pour demander
la révocation de la
qualité de société à mission, ce qui sous-entend que l'entreprise se défendrait, viendrait se justifier, viendrait expliquer, etc. etc. Donc on n'est absolument pas dans une mécanique qui se déclencherait toute seule.
Pour revenir à ces différents objectifs, ces différents niveaux d'objectifs, peut-être question impertinente, mais à quoi ça sert à ce moment-là d'avoir des objectifs opérationnels si finalement c'est presque se tirer une balle dans le pied d'avoir des objectifs opérationnels ?
Alors, c'est pas. Enfin, on peut le dire à l'envers. Hein. C'est-à-dire que si on n'a pas d'objectif opérationnel qui démontre qu'on a atteint des résultats, très souvent la manière dont les objectifs statutaires sont formulés font qu'on n'est jamais c'est extrêmement difficile de démontrer qu'on a atteint ou pas atteint le résultat. Et donc, on peut évidemment le voir de manière négative en se disant on prend le risque de se tirer une balle dans le pied, mais en fait, on peut aussi le voir de manière positive et qui est de se dire. Ben non, je me suis donné un objectif statutaire qui, comme il est statutaire, qui vise à être plutôt stable, un peu générique, qui ne veut pas trop limiter ma liberté d'agir, je l'ai formulé de manière assez large. Bah, heureusement que j'ai des objectifs opérationnels qui vont me permettre de démontrer que je suis bien en chemin vers l'objectif que je cherche à atteindre. Et je dirais même plus, un objectif statutaire, presque par définition, il n'est jamais atteint. Puisque s'il est atteint, bah, à la limite, il faudrait l'enlever des statuts puisqu'il est atteint. Donc d'une certaine façon, les objectifs statutaires, ils sont formulés d'une manière telle qu'ils sont de fait inatteignables. Et donc heureusement qu'on a des objectifs opérationnels pour démontrer qu'on est bien sur le chemin vers les objectifs statutaires. Donc ouais. C'est au contraire une chance.
Ce fameux cadre de progrès,
finalement, voilà,
que
exactement.
Que la mission doit être. Donc là, on a terminé avec la vérification. Et si on, si
alors,
on
pour arriver à ça,
qu'est-ce qui se passe?
Que va faire l'OTI? Alors, en gros, d'abord, la première chose que va faire l'OTI, c'est prendre connaissance de l'entreprise, bien entendu, c'est comprendre comment elle fonctionne. Je dirais même un point plus précis, c'est comprendre les enjeux qu'elle a pris en considération dans son activité. Je vous rappelle que la loi Pacte a modifié l'article 1833, ce qui s'applique à toutes les entreprises qui sont censées prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités. Donc d'une certaine manière, l'OTI doit essayer de comprendre quels sont les enjeux sociaux et environnementaux que l'entreprise a choisi de traiter grâce à la mission. Et surtout, il va prendre connaissance du rapport du comité de mission. Et le rapport du comité de mission, il est un point d'entrée absolument fondamental à la vérification OTI. Et ce rapport du comité de mission, il va notamment expliquer ce que le comité de mission a fait et comment il a considéré la façon dont l'entreprise exécute sa mission, c'est le terme de la loi, et donc comment elle s'est organisée pour mettre en œuvre la mission telle qu'elle s'est donnée. Et cet élément-là, il est absolument fondamental pour l'OTI. Et je vais même dire un point supplémentaire. Donc, d'une part, l'audit à blanc peut permettre à l'entreprise, avec son comité de mission, d'ajuster la manière dont est rédigé son comité de mission sur la base des enseignements que le comité de mission tirera de cet audit à blanc. Et d'autre part, la façon dont le comité de mission prend position, en particulier sur le choix des objectifs retenus et sur le choix des cibles, des objectifs au sens quantifié éventuellement retenus, peut avoir une grande importance. Typiquement, on s'attend à ce que le comité de mission porte un jugement sur le fait que la mission, elle est cohérente par rapport à l'activité de l'entreprise, que les objectifs opérationnels que l'entreprise s'est donné sont cohérents avec les objectifs statutaires, éventuellement qu'ils étaient trop ambitieux, pas assez ambitieux, que peut-être la non-atteinte de certains résultats s'explique par des événements que le comité de mission est bien placé pour décrire, pour justifier, autant de choses qui vont être très utiles pour l'OTI. Deuxième étape, c'est élaborer si ça n'est pas été fait, ou prendre connaissance du modèle de mission de l'entreprise. Donc ce schéma que je décrivais tout à l'heure, qui doit lui permettre de comprendre entre la raison d'être, les objectifs statutaires, les objectifs opérationnels, les plans d'action, les indicateurs. Parfois, moi je parle même d'un modèle de preuve. C'est-à-dire le modèle de mission, il va jusqu'au modèle de preuve. Et là, le modèle de preuve, à la fin, c'est de dire je me suis donné ça comme objectif, et voilà les éléments de preuve que j'ai rassemblés pour montrer que je l'ai fait. Et donc, l'OTI, il doit, à ce moment-là, s'assurer de deux choses. Il doit, premièrement, s'assurer de la cohérence d'ensemble. Et donc, la cohérence d'ensemble, c'est en gros, est-ce que l'activité de l'entreprise, la raison d'être et les objectifs statutaires, la route, c'est cohérent? Et d'autre part, première espèce de boucle de coordination. Et deuxième, c'est est-ce que la manière dont l'entreprise a décliné ses objectifs statutaires en objectifs opérationnels, en indicateurs, en plan d'action, tout ça est cohérent et fonctionne. Et ce que parfois un audit à blanc permet d'identifier, c'est que parfois il peut y avoir autour de ça des questions. Et donc il y a des fois où la cohérence, elle saute pas aux yeux, où les objectifs opérationnels paraissent pas très très sérieux par rapport à l'ambition, ou inversement, qu'il y a 250 trucs très détaillés. Ou alors pire, parfois il y a des formulations de mission dont le rapport avec l'activité est pas toujours ne saute pas toujours aux yeux. Et ça, c'est quand même un vrai problème, parce que faut pas oublier que la loi est très claire, hein, sur le fait que les enjeux, ça c'est le 1833, je l'évoquais tout à l'heure, c'est les enjeux socio-environnementaux de son activité, mais les articles qui traitent de la raison d'être et de la mission disent bien que c'est les objectifs que l'entreprise se donne dans le cadre de son activité, la raison d'être c'est les principes que l'entreprise veut traiter dans le cadre de son activité, bref, on n'est pas censé avoir une raison d'être déconnectée de son activité. Et ça c'est très embêtant pour un ETI. À la limite, l'ETI peut dire, moi je peux pas aller jusqu'au bout de ma mission. Bien, donc on admet que c'est quand même pas le cas général, et donc on arrive à un terme avec un modèle de mission qui est plus ou moins bien ficelé. Troisième étape, le comité de mission lui-même. L'ETI doit s'assurer que le comité de mission a fait son boulot. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans la définition de la société à mission, l'existence d'un comité de mission est une condition d'obtention de la qualité de société à mission. Donc il s'agit de s'assurer que le comité de mission il a fait son boulot.
Et donc on imagine de fait également le référent de mission pour les entreprises
ou
de
moins de 50 salariés. Absolument, bien sûr. Ou le référent de mission dans le cas d'une entreprise de moins de 50 salariés qui se substitue au comité de mission. Et donc faire son boulot, ça veut dire que... en gros, un comité de mission. Alors déjà, basiquement, quoi, un comité de mission, s'il ne s'est jamais réuni, ça me paraît un peu compliqué. S'il s'est réuni, mais qu'il n'y a jamais eu d'ordre du jour, il n'y a jamais eu de support de réunion, et j'en ai jamais rien sorti, ça me paraît un peu bizarre. S'il n'a pas du tout écrit le rapport du comité de mission, c'est un peu surprenant. Si les membres du comité de mission on ne voit pas le lien entre les membres du comité de mission et l'activité de l'entreprise, si ce n'est qu'il y en a un qui est le beau-frère du cousin, etc., ça pose un peu un problème. Donc déjà, il y a une espèce de truc un peu basique. Et donc, qui permet de s'assurer que le comité de mission, il a vraiment fait son boulot. Le vraiment fait son boulot, ensuite, on le voit évidemment dans la qualité du rapport du comité de mission. Quoi, hein. Donc, si c'est, et notamment, c'est important, et ça, on le voit aussi par entretien, hein, par interview, c'est important de savoir si le comité de mission, en gros, si je dis de manière un peu excessive ou un peu caricaturale, ça a été une espèce de chambre d'enregistrement d'un document qui a été produit par l'entreprise. Si c'est un document certes produit par l'entreprise, mais que le comité de mission a vraiment challengé, ou au contraire, si c'est le comité de mission lui-même qui a rédigé son rapport.
Enfin. Oui, parce que ça, c'est un point qui est important, c'est que l'audit ne se fait pas forcément qu'en chambre. Il y a aussi des entretiens qui sont faits avec les membres du comité de mission.
C'est obligatoire. Enfin, oui. Il y a, en fait, il y a les entretiens. Donc, il y a à la fois, c'est une vérification sur document et autant d'entretiens qu'on veut. Hein, c'est l'OTI fait ce qu'il veut. Après, c'est juste une question de temps et d'argent, hein, pour être clair. Mais parmi les entretiens obligatoires, il y en a au moins avec un ou plusieurs membres du comité de mission. Et puis ensuite, des salariés, des managers, enfin, en fonction de ce qu'on a envie d'explorer.
Et combien de temps ça prend à peu près une vérification ?
Alors, l'ampleur d'une mission, elle dépend évidemment fondamentalement de la taille de l'entreprise. De bon sens, une entreprise de centaines de milliers de salariés, une start-up de 3 personnes, on se doute bien qu'on ne va pas y mettre le même temps. Il dépend aussi de la complexité de certaines manières du modèle de mission, c'est-à-dire que si vous avez un modèle de mission avec plein d'objectifs statutaires et plein d'objectifs opérationnels déclinés dans tous les sens, etc., il faut plus de temps pour contrôler, pour vérifier. Et du coup, il y a vraiment un lien en fait, avec d'une certaine manière la maturité de l'entreprise, c'est-à-dire que si l'entreprise... je pense en particulier les deuxièmes, troisièmes vérifications, ça ira plus vite. Parce qu'une fois que l'entreprise elle a compris comment ça fonctionne, qu'elle tient bien à jour son modèle de mission parce que c'est son outil, pas pour le plaisir de la vérification, mais parce qu'elle s'en sert comme un outil de pilotage, que du coup elle sait exactement les objectifs personnels qu'elle a retenus, qu'elle sait comment elle a décidé de les mesurer et que ça correspond à la réalité de ce qui s'est passé dans l'entreprise, bah, rassembler les preuves, c'est très facile. Enfin, c'est juste faire des photocopies, des documents dont on sert tous les jours. Si à l'inverse, on est dans un cas dans lequel la mission, c'est un truc pas complètement intégré dans la vie de tous les jours, un peu plaqué, pas très vivant, brusquement, les gens se réveillent, se rendent compte, oulala, mais c'est vrai que mon modèle de mission, ah oui, zut, oh, j'avais oublié, ah, j'avais dit ça, ah bah zut, enfin bon, alors là, en revanche, ça peut être beaucoup plus laborieux pour faire la vérification. Et donc, je dirais, au mini-mini, pour une toute petite entreprise, ça peut peut-être être fait en 3 jours. Et dans d'autres cas, il faudra, dans des grosses entreprises, il faudra... Moi, j'en ai pas fait, mais enfin, il faudra 15 ou 20, j'imagine. Enfin, voilà, c'est quand même très, très directement lié à la complexité et à la taille et à la maturité, quoi.
Après, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué et qui est quand même assez important, c'est dans les différents types de livrables aussi que l'OTI peut rendre. Parce que donc, il y a l'avis qui est public,
oui.
Qui est assez sommaire, hein, finalement. Hein, mais tu me disais avant, il peut y avoir des commentaires. Oui. Qui peuvent indiquer alors, d'autres choses. Alors, puis il y a d'autres types de livrables possibles aussi qui ne sont pas forcément publics, sont plus informels.
Alors, effectivement, le livrable de base, c'est la vie, qui est... donc, bon, j'en profite entre parenthèses, mais on va travailler dessus au sein de la communauté, justement, pour essayer d'approfondir entre OTI, pour essayer de voir un petit peu jusqu'où on peut aller. En gros, un avis, je vous épargne tout le blabla formel, parce que c'est un texte un peu juridique, donc il y a des tas de trucs, mais le cœur du document, c'est est-ce que l'objectif opérationnel, il est atteint, non atteint, impossibilité de conclure. L'OTI, il doit si c'est en impossibilité de conclure, il doit expliquer pourquoi c'est en impossibilité de conclure. Le plus souvent, c'est l'entreprise a mobilisé des moyens, mais les résultats sur tel ou tel objectif n'ont pas été atteints, opérationnels n'ont pas été atteints, donc je suis en impossibilité de conclure. Mais il y a également une place pour des commentaires. Et là, c'est potentiellement là que les choses les plus intéressantes peuvent se situer. Parce qu'il y a une phrase qui dit « Nonobstant, en gros, les conclusions ci-dessus, l'OTI a remarqué que... Bon. » Et là, éventuellement, il peut y avoir à ce moment-là des choses qui peuvent être des pistes pour l'avenir, ou des points d'alerte, ou des points d'interrogation, ou des choses comme ça. Et puis, en général, l'OTI présente ses résultats à l'entreprise, et souvent, il va accompagner sa présentation par un document, qui peut être un PowerPoint, un truc, un machin, enfin, dans lequel il va dire des choses off, qui celles-là ne seront pas forcément officielles. Du point de vue d'ailleurs de la communauté, et du point de vue de l'Observatoire des sociétés à mission, qui sert de support à des travaux de chercheurs, j'essaye désespérément de trouver les moyens, enfin nous réfléchissons collectivement à trouver les moyens de récupérer cette information-là, qui serait très intéressante pour les chercheurs. Quitte à ne pas la rendre publique. Mais bon, ça pose des questions de confidentialité, donc c'est un peu délicat. Donc pour l'instant, on ne sait pas très bien comment on va faire, mais on aimerait bien trouver une solution pour l'intégrer.
Ouais, j'imagine que quand les commentaires sont un peu critiques, l'entreprise peut être hésitante aussi à ce qu'il y ait trop de commentaires.
Oui, mais en même temps, comment dire, la nature des commentaires qu'on peut faire, elle n'est pas non plus... Ça peut être des commentaires sur quoi ? Ça peut être des commentaires sur, à la limite, par exemple, sur le fonctionnement du comité de mission. Bon, et là, on a le droit d'écrire les choses de manière... On peut dire les choses de manière constructive, on n'est pas là... Parce que ça n'a pas d'effet. Donc, par exemple, de se faire plaisir à tirer au fusil sur une boîte alors que ça n'a aucun effet. Donc, on peut le dire. Ça peut aussi être des choses du genre plus basique, mais du genre... Bon, par exemple, les indicateurs retenus actuellement sont très qualitatifs, il serait souhaitable d'avoir des trajectoires sur plusieurs années. Enfin, ça peut être des choses de cette nature-là, donc c'est assez technique, et c'est plutôt, en fait, c'est plutôt des points d'amélioration pour la suite, quoi. C'est pas des sanctions, parce qu'une fois encore, ça n'a pas d'effet. Donc la seule sanction, c'est atteint, pas atteint, ou impossibilité de conclure. Donc le reste, c'est plus, en tout cas, je crois que les OTI, d'une manière générale, le vivent plus comme une façon... De poser des jalons pour l'avenir, quoi, de manière constructive.
Je reviens à la toute première question que j'avais posée, ou la toute première, sur comment bien choisir son OTI. Parce qu'en fait, il y a aussi une tendance chez certaines entreprises à choisir son commissaire aux comptes, qui est également OTI. Je crois qu'au sein de la communauté, c'est pas forcément ce qui est préconisé.
Alors, on n'a pas de position formelle sur ce point. Je vais même aller un cran plus loin. Je connais au moins un commissaire aux comptes, disons un expert comptable commissaire aux comptes, enfin un des Big Four, quoi, qui ne veut faire des audits SAM, société à mission, que s'il est par ailleurs auditeur des comptes. Donc il y a des entreprises qui peuvent aller dans ce point-là. Non, nous, on a plutôt tendance à penser que l'approche mission, elle n'est quand même pas tout à fait de même nature qu'un commissaire aux comptes qui est dans une phase d'audit des comptes. Et qui est donc, je dirais, presque conceptuellement ou culturellement centré sur, disons, la performance financière, ou en tout cas la mesure de la performance financière. Et donc, on n'est pas convaincu que ça soit la meilleure disposition d'esprit pour être dans une logique mission. Mais bon, voilà. Non, choisir son OTI, moi, je pense qu'il y a trois critères, vous allez voir, qui sont très, très partiaux. Le premier, c'est de s'assurer qu'il met en œuvre la méthodologie de la communauté. La deuxième, c'est de vérifier s'il est lui-même société à mission. La troisième, de vérifier s'il est membre de la comité des entreprises à mission. Une fois qu'il a passé ces trois critères, c'est forcément un excellent outil. Et après, il faut avoir le fit. Parce que quand même, on est quand même dans un audit société à mission, on parle des sujets un peu fondamentaux. Donc, il y a quelque part, on est plus dans une... mes amis commissaires aux comptes n'aiment pas quand je dis ça, mais, et ils ne sont pas d'accord avec moi, mais je trouve qu'on est quand même quelque chose qui est plus proche du conseil que de l'audit. Pur et simple, même si ça s'appelle une vérification, on n'est pas audit, on est une vérification OTI. On est quand même dans la compréhension profonde du business, des enjeux, des ambitions, la stratégie, enfin voilà. Donc après, à la fin, il faut quand même avoir le fit et se sentir bien avec la personne qui va faire la mission. Quoi.
C'est ce que Jean-Pierre Richard de ES2I avait expliqué dans un précédent épisode où justement ils avaient changé d'OTI. Parce qu'en fait, le premier OTI qu'ils avaient choisi, il n'y avait pas ce fit dont tu parles, et ils sont allés vers un autre OTI où là, pour le coup,
ça se passait
bien mieux. Et dernière question, parce que c'est une question que beaucoup d'entreprises se posent, combien ça coûte ?
Je vais pas te donner un chiffre ou aux auditeurs un chiffre, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en gros, ça se facture sur un nombre de jours et un prix de journée, quoi. Donc, comme je l'ai dit, il y a des fourchettes de jours qui peuvent varier. À mon avis, en moins de 3 jours, c'est pas très sérieux. Et puis, ça doit pouvoir monter dans des grands groupes à peut-être 10 fois plus. Et dans les prix de journée, suivant la manière dont sont organisés les acteurs, ils peuvent envoyer des juniors avec un petit peu d'encadrement, ou au contraire, envoyer des seniors un peu plus longtemps. Donc, il y a un prix de journée qui peut un peu bouger. Donc, je pense que... à moins de 4 ou 5 000 euros, c'est pas très sérieux. Et puis pour les grandes entreprises, ça forcément c'est plus cher, et on est plutôt dans l'ordre de dizaines de milliers d'euros que voilà.
Alors comme tu le sais, je finis tous mes épisodes de podcast par le coup de cœur musical de l'invité. Alors je sais que ça n'a pas été facile.
Donc non, je ne suis absolument pas musicien. Je sais que ça surprend tout le monde, parce que de nos jours, tout le monde écoute de la musique tout le temps. Ça n'est pas mon cas. Tu m'aurais demandé un film, j'aurais fait, et ça sera un petit clin d'œil à Guillaume Desnos, j'aurais volontiers cité un film qui est La vie est belle de Franck Capra, qui est un film sur une entreprise à mission en été, qui date des années 30. Et donc du coup, je vais citer une musique que j'écoutais à un âge qui n'était pas celui d'aujourd'hui, qui était nettement plus jeune, et donc c'est un morceau de Deep Purple qui s'appelle Highway Star, qui est un truc d'enfer, que j'adorais quand j'écoutais.
Excellent morceau, si, excellent morceau,
voilà.
Parfait, un grand merci de cet échange. J'espère que vous avez tous bien pris des notes. En tout cas, sinon vous pouvez réécouter le podcast pour tout entendre. Le rapport est très bien fait, et c'est vrai que pour le coup il est très didactique, ce qui permet, je trouve, d'avoir tous les éléments, et il est utile à la fois pour les OTI mais également pour les entreprises. C'est ça que je trouve intéressant, même si c'est vrai que c'est plutôt un guide méthodologique pour les OTI. Il a quand même cette vertu aussi de pouvoir donner de très très bonnes indications aux entreprises qui vont se faire auditer. Donc je trouve que ça, c'est un double emploi.
C'était notre ambition, et c'est pour ça qu'on a travaillé avec des dirigeants de sociétés à mission et pas uniquement entre OTI.
Parfait, merci beaucoup Alain.
Merci
à toi.
Et
maintenant, il ne reste plus qu'aux entreprises de réussir leur vérification.
Exactement, merci beaucoup.
À bientôt. Merci à toutes et à tous de votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode de La Machine à Sens vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une petite faveur à vous demander, c'est de me donner quelques étoiles, ça monte jusqu'à 5 sur Apple Podcast et sur Spotify. Alors bizarrement, sur Spotify, ça ne fonctionne que sur smartphone. C'est vraiment important pour améliorer le référencement du podcast et faire que d'autres puissent le découvrir plus facilement. Pour ne rien rater des prochains épisodes, le mieux est de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Et si vous avez envie d'échanger sur le sujet des entreprises à mission, voire de vous faire accompagner dans cette démarche, vous pouvez me contacter via mon site lamachineasens.fr ou sur LinkedIn. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.